Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les 30 articles qui forment la Déclaration des droits de l'homme, tels que rédigés en 1848, statuent sur un certain nombre de points. L'égalité des hommes entre eux, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Leur égalité face à la loi, au droit, leur liberté, leur droit à la propriété, à la libre circulation d'un pays à l'autre, à la liberté d'expression, le droit au travail et le droit au repos, le droit à l'éducation gratuite, à la sécurité sociale, le droit à être défendu devant la justice, le droit à avoir une nationalité, etc. Dans son étude sur Edgar Poe, le poète Charles Baudelaire ne semble pourtant pas tout à fait satisfait de cette liste. Il écrit, je cite, « Parmi l'énumération nombreuse des droits de l'homme que la sagesse du XIXe siècle recommence si souvent et si complaisamment, deux assez importants ont été oubliés, qui sont le droit de se contredire et le droit de s'en aller. » Tout de suite dans les pieds sur terre, quartier d'été, deux histoires de femmes qui ont usé de ces deux suggestions baudelairiennes à la fois. Elles se sont contredites et puis elles se sont en allées. Elles avaient dit oui et puis elles ont dit non et elles sont parties. C'est un interlude estival avec des chansons et des romances, deux histoires d'amour comme dans les films avec des rebondissements, des volte-face, des larmes et des atermoiements. C'est tout de suite Les pieds sur terre, quartier d'été par Alain Lefkovitch.
Quand on s'est rencontrés, j'avais 19 ans. Je suis tombée tout de suite amoureuse de lui. On a décidé de partir en voyage, faire un tour du monde. Et puis en rentrant à Paris, on s'est installés ensemble. Et puis au bout de quelques années, on a eu notre fille. Et puis moi, souvent, je me disais que j'avais bien envie de me marier. Voilà, c'était quelque chose qui revenait et lui, c'était pas vraiment un objectif dans sa vie. Moi non plus, j'ai jamais rêvé de me marier, j'ai jamais rêvé des robes de meringue, j'ai jamais rêvé de ça spécialement. Mais avec lui, j'avais envie de concrétiser quelque chose d'un peu solide. Je l'appelais mon non-mari, ça l'agaçait beaucoup, ou mon pseudo-mari. Bah, fallait bien trouver un nom à la personne avec qui je partageais ma vie et avec qui j'avais un enfant. Et puis, un jour, on était en voyage et il m'a demandé en mariage. Et je me suis dit, mince, alors ça y est, c'est maintenant, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on fait une demande en mariage. Je ne m'y attendais pas du tout, je ne l'ai pas du tout vu venir. Et puis contente, je dis, bah oui.
À ton mariage, j'ai vu ton visage, tes yeux brillants d'amour, et ton beau sourire semblait vouloir dire, je vis mon
Donc on a commencé à préparer ce mariage. Toute ma famille était très enthousiaste. Du côté de sa famille, c'était un petit peu plus mitigé. Bon, en même temps, tu te maries pas pour les autres, a priori, tu te maries pour toi. On a commencé à préparer ce mariage et puis on s'est demandé si on allait faire ça dans la maison familiale ou bien... Puis très vite, ça s'est transformé en un grand château avec des 5 ou 6 invités que je voulais. On s'est retrouvés à 150. Et puis c'est devenu très lourd, en fait, cette histoire. Aller tester les champagnes, aller tester les petits fours, visiter des châteaux où je me reconnaissais absolument pas. Et puis où je voulais me marier en rouge. Alors je me suis acheté une robe rouge. Et puis très vite, mes copines m'ont dit « Mais non, enfin, tu peux pas porter la même robe que tout le monde. Regarde, moi, je pourrais la porter à ton mariage, cette robe. Il faut que tu te maries en blanc. » Bon, d'accord, donc j'ai trouvé une créatrice qui m'a fait une robe. Très simple, longue, blanche, enfin écrue en fait. Et que j'ai toujours d'ailleurs dans mon placard. On a demandé aux amis de faire, enfin à une amie de faire les cartons d'invitation. Puis on a commencé à envoyer toutes ces lettres partout, aux quatre coins du monde, parce qu'on a des amis un petit peu partout. Tout le monde était très enthousiaste. Je sais que de leur côté, les gens, ma famille, mes amis, mes sœurs, préparaient des interventions, enfin des choses comme on fait d'habitude. Et puis, mon futur mari est parti travailler à l'étranger. Je me suis retrouvée à organiser un mariage qui finalement ne me ressemblait plus vraiment, dans une ville qui n'était pas la mienne, avec une ribambelle d'invités qui sont des amis et de la famille, que j'aime bien, hein, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Mais je ne sais pas, j'ai eu une espèce de montée de... Je trouve que le mariage, c'est un acte un peu fou. En réalité, ce qui me gonflait, c'était l'idée de préparer ce mariage. Les gens qui mettent un an à préparer leur mariage, je trouve que, ça, à mon sens, ça perd justement tout ce côté... un peu dingue de dire oui à quelqu'un, a priori, jusqu'au bout de ses jours, quoi, au bout de sa vie. Je me suis dit, mais dire oui à jurer fidélité, jurer toutes ces choses-là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'on me demande, en gros, quoi? Je crois que je me suis mis vraiment beaucoup de pression. Et puis, un jour, je me suis retrouvée dans une fête, assise à côté de quelqu'un que j'ai retrouvé, que je connaissais déjà d'avant, mais qui me plaisait bien, mais sans plus, sur qui j'avais jamais projeté quoi que ce soit. Et on se retrouve à cette fête, et puis on fait plus ample connaissance, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Et puis je me suis laissée tenter. Je me suis dit, bon, allez, je vais enterrer ma vie de jeune fille. Et je suis tombée amoureuse. Mais l'amour que j'avais pour la personne avec qui j'allais me marier n'avait pas changé d'un iota, absolument pas. C'était était toujours là, très puissant, très... C'était pas du tout la même chose, c'était pour un petit coup de folie, quoi, on va dire.
Charles, est-ce que tu essayes?
Matt, what do we think about marriage?
Well, I think it's really good. If you love the person with all your heart.
Well, exactly. Quite.
Mais les jours ont passé, le mariage s'est approché à grands pas, et puis mon escapade amoureuse s'est installée de plus en plus dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur. Enfin, ça a pris vraiment de la place. Et puis, les jours précédant le mariage, on est parti en vacances, en famille. Un matin, en discutant avec le père de ma fille, ma bouche a parlé toute seule. Je ne sais pas, c'est sorti tout seul. J'ai juste dit... Non, je suis désolée, je vais pas pouvoir, je peux pas, je peux pas me marier avec toi. Ça a rien à voir avec l'amour que je te porte, mais je dirais pas oui parce que je voudrais faire une promesse et la tenir comme il se doit, et je pense que je vais pas y arriver. Et c'était comme si depuis un mois j'avais la tête sous l'eau, que j'étais en train de me noyer dans un océan de sentiments confus, puissants, dans une mer démontée, parce que je n'arrivais pas à voir exactement ce qui... à faire la part des choses. Je comprenais pas, j'étais sans dessus dessous, en fait. Et à un moment, j'ai eu la force de ressortir ma tête de l'eau, et c'était le moment où il fallait que je dise, parce que je savais que décemment, il fallait que je prévienne que j'allais pas me marier, j'allais pas me gravir les marches de la mairie, tout en sachant qu'au dernier moment, j'allais dire non. Je savais que je ne pourrais pas dire ce oui. Il y avait qu'un non énorme qui émanait, qui sortait de moi par tous les pores, quoi. Donc à un moment, j'ai dit, je ne vais pas pouvoir me marier avec toi. C'est-à-dire que c'est sorti comme un cri, quoi. Et donc, cet homme-là, il m'a regardé, m'a souri, et m'a dit, je pense que je te comprends, ça me soulage quelque part. Bon, ce soulagement a été de courte durée, parce qu'après, quand même, qu'est-ce qu'on fait de ces 150 invités, de ce costume, de cette robe, de ces alliances, de ce château, de tout ça, quoi.
Quand Bernard vit Suzy et son cœur en dépit, il épousa Suzy.
Bon, il a fallu passer les coups de fil, appeler les parents d'abord. Au départ, tout le monde pensait que c'était une blague. Non, allô, papa, maman, non, juste pour vous dire qu'en fait, on va pas se marier. Ma sœur qui était dans tous ses états, mais comment ? Mais je me suis acheté une super robe, j'ai des super chaussures. Je sais pas, tu vas bien trouver un autre mariage pour les mettre. Mon père s'est un peu effondré, il comprenait pas du tout pourquoi je voulais plus me marier, alors que lui était très content que je me marie, ça y est, ça faisait déjà une fille de casée. Et puis donc, on a dû passer ces 70 coups de fil et expliquer aux gens qu'on ne se mariait pas. Alors, on ne peut pas expliquer grand-chose, on dit juste qu'on ne se marie pas. Les gens pensent que c'est une blague, on leur dit non, non, non. En fonction des gens, parfois, on verse une petite larme en disant, parce que c'est quand même beaucoup d'émotions de dire... Et puis moi, dans mon fort intérieur, enfin, je savais pourquoi finalement je n'allais pas me marier, je connaissais mon secret.
Therefore, if any man can show any just cause why they may not lawfully be joined together, let him speak now or else hereafter forever hold his peace. I'm sorry, does someone have something to say? Yes, what is it? What's going on, Charles?
Just what?
He wants me to translate what he's saying.
What is he saying?
He says, I suspect the groom is having doubts. I suspect the groom would like to delay. I suspect the groom.
What's he saying?
He suspects the groom loves someone else.
Do you? Do you love someone else? Do you, Charles?
I do.
Ensuite, voilà, on est revenu à Paris après les vacances, pas mariés, et la vie a continué. On a continué à vivre 5 ans ensemble encore. Puis finalement, on s'est quand même séparés. Et cette histoire de non-mariage est restée vraiment comme une blessure pour lui, comme une trahison, comme... quelque chose qu'il n'a pas du tout compris et encore aujourd'hui qu'il ne comprend pas vraiment.
Amour, mariage, vous parlez d'un drôle d'attelage, c'est toujours le même qui tire la carriole. Non, 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 pas d'esclavage. Pas de cage. Non, 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 je veux rester, mon cher. Célibataire, amour, mariage. Toute la vie au coin du feu, bien sage. Pas question, vieux frère. À pleines dents et pour longtemps, je veux croquer les fruits que j'aime.
France Culture, les pieds sur terre.
On prend son élan, on attend que quelque chose arrive, le fasse à sa place, on provoque sans doute des situations pour que l'autre prenne la décision et dise « mais si c'est comme ça, je ne veux plus t'épouser ». Donc on essaye sans doute de se montrer plus laide qu'on est, plus désagréable qu'on est. Et on trouve des tonnes de subterfuges, parce que c'est pas une décision qui tombe du ciel, mais c'est effectivement, ça prend 6 mois à pousser, c'est-à-dire que, et puis ça se trouve, c'est déjà là depuis le début, on sait très bien qu'on est en train de faire des conneries, mais parfois, on est romantique, on se pousse, parfois on fabrique les sentiments, on fabrique les histoires aussi, on est capable de ça, de fabriquer des histoires très jolies, d'inventer des sentiments, moi je suis très forte à ça, écrire c'est une forme d'écriture finalement, donc, il y a ce voyage-là qui est comme un saut, oui, comme être sur une falaise et prendre son élan et j'y vais pas. Et je pense qu'il y a plein de fois où même en face à face, on prend son élan et on se dit, eh ben, quand il aura fini cette phrase, je vais lui dire que je ne veux pas me marier. Et on ne le fait pas. Et on dit, ah, ou alors on arrive, on dit... Il faut qu'on se parle et on dit, allons faire des courses. Je crois que c'est très compliqué. C'est abstrait de croire qu'on va le faire. On n'y croit pas soi-même que ce serait possible de pas se marier alors que tout est prévu. C'est pour ça, je pense qu'on arrive à un temps urgent que peut-être devant le maire on dit non ou que la veille on annule. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive à des choses très proches du jour du mariage.
Where's she going?
Look, she's leaving.
Where's she going? She forgot her purse.
No, she didn't forget her purse.
Well, go after her, do something.
Moi, je m'y suis pris une semaine avant. J'étais en voiture avec une copine. On était partis à Disneyland et c'est dans la voiture en lui parlant. Que c'est elle qui m'a dit, mais on ne peut pas se marier dans cet état-là, ce n'est pas possible. Et donc c'est cette confrontation-là, c'est comme une conscience, c'est comme, je ne sais pas, Jiminy Cricket avec Pinocchio. C'est quelqu'un qui vous dit ce que vous-même, vous ne voulez pas entendre, vous laissez entendre. La manière qu'elle a eue d'affirmer que ce n'était pas jouable et que tant pis, et ben que ça se faisait et qu'on avait le droit et qu'il n'y avait pas que dans les films et que dans la vie on avait le droit d'annuler, de pas se marier, de pas aller faire des conneries. Et ben ça a été voilà la libération. Oui, je voulais me marier comme ça. J'avais l'impression que j'avais réfléchi. Mais finalement, je ne connaissais pas cet homme-là. Et puis petit à petit, parce qu'un mariage, c'est pour dans longtemps. Quand on décide de se marier, c'est dans un an à peu près, parce que c'est long à préparer. Donc cette année-là, ce moment-là, entre le moment où on décide de se marier et le vrai mariage, il y a quand même aussi ce temps de faire connaissance. Et c'est ce temps-là qui a été fatal. C'est-à-dire que j'ai vu cette personne en face de moi et j'ai bien vu que ça n'était pas possible et que j'étais pas dans un roman, parce que j'ai tendance à romancer la vie. Et que j'allais me marier pour divorcer. Je pense que quand on se marie, à mon sens en tout cas, il faut au moins croire que c'est pour toujours et qu'on va finir ses vieux jours avec cette personne et qu'on va le supporter dans tous ses états. Enfin, il faut avoir foi en ça. Après, oui, on sait très bien qu'on peut divorcer et qu'on peut se séparer, mais aller se marier en pensant qu'on divorcera de toute façon, c'est idiot. Et puis surtout, ça déploie énormément de moyens quand on prépare une fête avec 300 personnes. Donc on se rend compte que ça vaut pas le coup et qu'il va falloir ne pas faire ça. Une fois que cette décision dans cette petite voiture revenant de Disneyland est prise, ce qui est drôle en plus parce que Disneyland c'est quand même le royaume du prince charmant. Donc je pense que toute cette discussion existe aussi de par ce fait-là qu'on revient, toutes les deux, certes avec des enfants, mais on a finalement que 26 ans, donc on est quand même aussi assez enfantine. Et je sais pas, et c'est en revenant du pays du prince charmant que je décide que c'est pas ce qu'il faut faire. Quand on arrive à ce point-là, où on réalise et on avoue et on accepte qu'on va finalement annuler ce mariage... C'est une libération. Après, la difficulté, c'est la honte. C'est la honte d'affronter les gens et d'appeler cet homme-là et de le broyer. Parce qu'on sait bien que ce genre de décision broie quand même l'autre. Surtout quand elles sont prises dans une voiture avec une copine en revenant de Disneyland et qu'elle n'est pas prise pendant une dispute où on n'est pas en face à face, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la conclusion ensemble. La conclusion, je la fais toute seule. Donc la première personne à appeler, c'est effectivement cet homme-là. Et donc voilà, donc une fois arrivée à la maison, ma mère était là, c'est circonstanciel, je ne vivais pas avec elle, mais elle était là. Et donc elle m'encourage. Et donc, forte de ça, je crois que vous ne lâchez pas ce moment-là, parce que les forces pourraient manquer demain ou plus tard. Enfin, moi, j'ai fait comme ça. Je me suis dit, ben oui, dans cette espèce de folie que j'ai, et comme quand je prends des décisions géniales et quand je prends des décisions dramatiques, ben, j'avais cette force-là. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai parlé. Et il faut être rapide et sans appel et il ne faut pas discuter pendant des heures. Il faut le guillotiner, quoi. Il faut le donner. C'est une information qu'il faut... oui. C'est un coup près, il faut vraiment la donner, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas laisser de porte, il ne faut pas laisser de brèche, il ne faut pas bafouiller, il ne faut pas s'excuser, il ne faut pas pleurnicher, parce que tout ça va donner de la force à l'autre pour dire « mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible ». Et donc on est parti dans des trucs très angoissants. Mais ça a été très net, très rapide, sans appel... Et sans drame, enfin, moi, j'ai pas vécu son drame. Il ne me l'a pas imposé. Il faut prévenir tous les invités que la fête n'aura pas lieu. Et leur dire qu'il n'y aura pas de mariage. C'est très difficile. Moi, j'avais honte. C'est pour ça que j'ai demandé à ma mère et à mon amie de le faire. Mais donc elles avaient l'agenda avec puisqu'on avait invité, on avait envoyé. C'était une époque où on envoyait des invitations dans des enveloppes. Donc on avait les adresses de tout le monde, les numéros de tout le monde. Donc on a appelé. Ça a duré des jours et des jours parce qu'ils étaient 300 personnes. Donc ces trois femmes autour d'une table ronde et en bois. Je me souviens très bien de cette table et même de l'agenda, hein, des adresses mises comme ça. Parce que j'écrivais une adresse en rose, une adresse en turquoise, une adresse en rose, une adresse en turquoise, donc pour voir bien la différence. Donc je vois ces deux femmes en train d'appeler les roses, les bleus, les roses, les bleus, avec des gens un peu outrés, surtout la famille en face, qui se disait, en gros, l'impression qu'on avait, c'était, on le savait. Cette fille-là, on le savait, elle n'est pas constante. Il y a quelque chose de ce domaine-là, c'est-à-dire que les deux familles, le savaient. C'est-à-dire que et ma famille savait qu'il fallait pas épouser celui-là, et les autres savaient que j'étais pas. Donc c'est ça, assez drôle, ça aussi, de voir que finalement tout le monde est d'accord. Et puis c'était deux familles très différentes. C'est nous, on est une famille plutôt bohème et plutôt fofolle et. Anarchiste de gauche, donc face à des grands bourgeois. Socialement, du côté des bourgeois, c'était compliqué. Parce que ça ne se fait pas. Soit on réfléchit bien, mais en tout cas, je pense qu'on ne fait pas cette marche arrière. Qui, chez moi, de mon côté, est plus possible. Par rapport à cet acte-là d'annuler un mariage, on trimballe aussi... son milieu social et culturel, c'est-à-dire la culture dans laquelle j'ai grandi, qui me permet, moi, de trouver ça comique de ne pas le faire. Et ça l'est aussi. C'est comique et c'est drôle et puis c'est très cinématographique. Donc après ça, ça fait rire les gens, ça fait toujours rire les gens, cette histoire. De toute façon, les années sont passées et ça reste toujours quelque chose de marrant. Vous devenez une sorte de personnage un peu... qui a du culot ou qui est un peu fofolle. Enfin, c'est très romanesque, finalement. Donc, de mon côté, je pense que lui, c'est une souffrance sans doute à vie, c'est une humiliation à vie. Et donc, on est coupable de ça. On se sent coupable si on a un petit peu de conscience. On voit bien qu'on a meurtri quelqu'un. C'est comme si on avait coupé une tête. Je vous disais, il faut que ça soit une guillotine. Mais oui, la tête est tombée. Et elle s'est remise, et puis, ou elle a repoussé, un peu comme les lézards. Mais oui, on se sent pas très fier, quoi. Mais j'ai quand même dormi et j'ai continué, mais parce que j'ai cette vitalité et cette capacité aussi à rire des choses et et en faire à quelque chose d'un peu surréaliste. En fait, c'est intense sur le moment, mais ça laisse pas trop de traces. Je n'ai pas gardé de douleur après cette chose-là, après cette annulation de mariage. Quand je me suis mariée vraiment pour de vrai et très longtemps, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. C'est vrai, j'adore me marier. Je trouve que c'est très joyeux et que c'est un engagement fantastique. J'aime beaucoup être la femme de quelqu'un. Alors je ne suis pas Zaza Gabor, je ne me suis pas mariée de nombreuses fois. Je me suis mariée deux fois et je compte bien me marier encore une fois. Mais pour de vrai, pour toujours, quoi. Et dans le mariage, il y a un engagement que j'aime. J'aime bien dire mon mari, mon époux. J'aime bien être la femme de quelqu'un. J'aime même bien, alors que je suis féministe, j'aime même bien porter le nom du mari, devenir une espèce d'entité de gloubi-boulga, comme ça, une espèce d'union. d'union. J'adore ça. C'est vrai que j'adore ça. J'adore les mariages, j'adore que les gens se marient. Je suis toujours triste quand les gens divorcent. Très, très triste. C'est pour ça que c'était si important que je ne pouvais pas y aller et me marier. C'est qu'il faut quand même avoir foi en ça. Il faut croire que ça va durer toute la vie. Et moi, je l'ai cru à chaque fois.
Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Ay, así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Está perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été avec Oui mais non, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Marie Placé avec un coup de main de Clémence Grosse et diffusé pour la première fois le 17 juin 2015. Merci à Sandrine Chaperon, à Camille Richir et à Sarah Djeroui.
Así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, 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 ay, quizás, 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 pero cuando quizás, 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 ven que me muero, quizás, quizás, quizás.